Et je vous demande d'ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Je vous avais dit qu'on allait sauter le chapitre 2. Donc vous pouvez le lire, le chapitre 2, mais c'est une grande description des faux docteurs avec leur sort final. Et tous ceux qui rejettent Dieu. Mais ce matin, nous avons vu la dernière section du chapitre 1. Et je voudrais juste, parce que ça m'avait été demandé, mais rappeler très rapidement les trois choses que nous avons vues concernant la fiabilité de l'Écriture. Eh bien, on avait vu que l'apôtre Pierre a insisté premièrement sur la qualité du témoignage apostolique. La qualité du témoignage apostolique. Il avait montré que ce n'est pas par des fables conçues dans la pensée des hommes qu'il l'avait présenté, qu'il l'avait enseigné même, qu'il avait fait connaître la réalité du retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et il a montré qu'il avait un témoignage pluriel, un témoignage qui était étendu à tous les sens. Et puis nous avons vu aussi, deuxièmement, qu'il a insisté sur la certitude de la parole prophétique. Il a dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc il a insisté sur le fait que cette parole enseignée dans l'Ancien Testament, déjà, dans la prophétie, puis dans l'Ancien Testament de manière générale, était une parole à laquelle on devait prêter attention. Et on avait vu que c'était important parce que, notamment, c'est par elle que l'on peut réfuter l'erreur. Et c'est contre l'erreur que, dans le contexte immédiat de cette épître, que l'apôtre Pierre écrit cette lettre pour affirmer les chrétiens contre les faux docteurs et contre, on va le voir bien tout de suite, contre les moqueurs. Puis troisièmement, on avait vu qu'il avait établi la certitude de l'inspiration de la parole prophétique. Et il a montré qu'une parole, la parole de Dieu ne pouvait pas être l'objet, la prophétie ne pouvait pas être l'objet d'une interprétation particulière parce que justement elle est inspiré par Dieu, et qu'il faut l'Esprit de Dieu dans le croyant pour conduire le croyant dans cette parole-là. Donc, on ne peut pas prendre la parole comme elle vient, elle ne dépend pas du lecteur, elle dépend de Dieu qui l'a inspiré. Donc je vous invite maintenant pour le troisième message à ouvrir votre Bible dans 1 Pierre chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1, 1 Pierre 3, et à partir du verset 1, pardon, qu'est-ce que je dis ? 2 Pierre. 2 Pierre 3, à partir du verset 1. Je vais lire. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée de l'eau au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Nous voulons prier. Seigneur, nous avons besoin que tu nous guides dans ta parole, et nous te demandons de le faire par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour ces instants, et qu'ils puissent être à la gloire de ton nom. Amen. Deux lettres, j'ai envie de dire, l'apôtre Pierre, dit, voici déjà la seconde fois que je vous écris. Mais c'est deux lettres avec un seul message. Il dit, c'est la seconde fois que je vous écris, mais dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller votre saine intelligence. Ce qu'il appelle la saine intelligence, c'est, notre texte dit, une intelligence sincère, sans cire, pure, qui résiste à la pureté de la lumière. Donc le chrétien, en tant que chrétien, eh bien, il dit qu'ils ont reçu une intelligence purifiée qui leur permet de saisir les choses de Dieu. Mais il leur dit, attention, je cherche à éveiller, il cherche bien sous quel angle il peut prendre les choses afin que leur intelligence reste éveillée sur ces choses, il dit, c'est ça. Dans l'une et dans l'autre, je vous ai écrit afin que vous sachiez. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez, encore une fois, on y est, des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement enseigné par les apôtres du Seigneur. Le commandement du Seigneur enseigné par les apôtres. Donc, ils cherchent encore à mettre dans leur esprit ces choses, ce qu'il appelle ces choses. De quelles choses? Alors, si on a bien compris cette section que nous venons de lire, on voit que tout de suite, là, il est préoccupé, il rentre dans le vif de son sujet par le retour du Seigneur Jésus-Christ et par la réalité de cette doctrine qu'on appelle l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il y avait des personnes qui s'étaient infiltrées dans parmi ces chrétiens et qui dispensaient un faux enseignement concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ici, je veux que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les prophètes. Il dit que les prophètes ont déjà annoncé que Christ va revenir. Et puis, le Seigneur lui-même, il a annoncé aussi, parce que c'est un commandement du Seigneur. Et puis, ses apôtres aussi l'ont enseigné. Et je veux que vous vous souveniez de ces choses. Mais il aurait pu le dire comme ça. Voilà, il faut vous souvenir que le Seigneur va revenir. Point à la ligne. Et puis terminé. C'est plus grave que ça, ce qui existait à cette époque-là. Et donc il va chercher à éveiller, à montrer aux chrétiens qu'ils doivent attendre et qu'ils doivent croire dans cette doctrine du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc il va écrire, développer quelques arguments. Il va dire la première chose qu'il va montrer ici, sur laquelle il va attirer l'attention de ses lecteurs et notre attention aussi, c'est sur la réalité des derniers jours. Il dit ici, sachez tout d'abord, on relit le verset 3 avant tout, que dans les derniers jours, et le chrétien c'est quelqu'un qui doit être au fait du temps, il ne doit pas être ignorant concernant le temps dans lequel il vit. L'apôtre Pierre dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, donc il y a une notion, je vais dire, de temps que le chrétien doit absolument intégrer dans sa vie et dans ses calculs. Sinon, il peut courir d'une certaine manière, entre guillemets, à sa perte, à user son temps pour des futilités. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Géasi, vous vous rappelez, lorsque il avait couru après les présents Et puis son maître Élisée lui dit, mais est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, puis des bœufs? Et parfois le chrétien peut se tromper de temps et oublier qu'on est dans les derniers temps, ou ce que la Bible appelle les derniers temps. Il va qualifier particulièrement ces derniers temps. Il dit qu'il viendra dans ces derniers temps des moqueurs avec leur raillerie. Donc ce qui va caractériser ces derniers temps, cette période, ça sera l'arrivée de faux docteurs, de faux enseignants, et particulièrement ici, il parle de moqueurs, de personnes qui vont se moquer. Et dans Ésaïe, par exemple, chapitre 5, on n'aura pas le temps de tout lire, mais il est question d'attitude de moquerie, hein, à l'égard de Dieu, à l'égard de sa promesse. Déjà, dans l'Ancien Testament, on parle des moqueurs. Et il dit, les prophètes l'ont déjà dit, il faut que vous sachiez que dans les derniers temps, il y aura cette catégorie de personnes. Je voudrais juste faire remarquer qu'il ne dit pas qu'il y aura, il ne donne pas une dénomination particulière, il dit que ce sont des moqueurs. Et les moqueurs, ça peut englober n'importe qui. Le moqueur peut être en bleu de travail, ou il peut être en col blanc avec une belle cravate. Hein. Ce sont des moqueurs. Il va donc maintenant décortiquer ce que sont ces personnes. Il dit qu'ils viennent avec leur moquerie. Et on connaît ces moqueries encore aujourd'hui, ça existait à l'époque déjà, mais encore aujourd'hui, c'est une manière de caractériser les gens qui s'opposent au message de Dieu, mais qui s'y opposent par des moqueries. Un exemple, dans la Bible, vous aviez quand Néhémie devait reconstruire la muraille, il y a eu des moqueurs, des gens qui ont dit « Ah, laissez-les faire, ils construisent une muraille !» que des renards se jettent là-dessus et la muraille n'est plus. Hein. Et c'était, quel était le but? C'était simplement de les décourager, de les faire abandonner l'œuvre. Et Pierre dit la même chose ici. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Et il va dire un peu plus loin quel sera leur propos. Hein. Il va donc parler de la cible même de leur raillerie. On la trouve au verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? La seconde venue de Christ que vous aviez prédite, à laquelle vous aspirez, eh bien, elle est où? Il est où le Seigneur qui doit revenir? Et vous savez, c'est un argument parfois qui peut ébranler la foi des chrétiens lorsque on vous dit, mais je parlais avec un frère de notre église la dernière fois, il m'a dit, mais c'est vrai qu'on a l'impression que même Paul croyait que Christ allait revenir de son vivant. Et ça fait quand même 2000 ans. Et on dit, c'est vrai, on pourrait se dire, mais où est la promesse de son avènement? Et les moqueurs, ils se saisissent de cet angle-là, et puis ils disent, ces chrétiens qui attendent depuis je ne sais plus combien d'années le retour du Seigneur Jésus-Christ, là, ils devraient se rendre compte qu'ils sont en train d'attendre du vent, et puis ils vont se moquer de ces choses-là. Et alors, vous n'êtes pas des gens raisonnables, vous attendez ce qui ne peut arriver. Mais l'apôtre Pierre dit, ça va se passer comme ça, quand ça va se passer comme ça, sachez que vous êtes dans les derniers temps. Montrez-nous ce sauveur, dit-il, on pourrait paraphraser la chose ainsi. Ça fait 2000 ans que vous le dites, il ne reviendra pas. Et donc, c'est une cible de choix pour le moqueur. L'espérance chrétienne, surtout celle qui touche au retour du Seigneur Jésus-Christ, est une cible de choix pour les moqueurs. Remarquez que Pierre ne repousse pas la moquerie du revers de la main. Il ne dit pas « oubliez-les ». Tant pis pour eux. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait que ça touche particulièrement les chrétiens. Il sait très bien que leur foi peut être ébranlée à cause de la moquerie. On baisse les bras facilement à cause de la moquerie. Quand on est sous le milieu du travail et qu'on sait qu'il y a des gens qui risquent de se moquer de nous, on n'est pas toujours très encouragé à parler du Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment prier, demander au Seigneur sa force, parce que personne n'aime que la moquerie. Et on n'aime surtout pas qu'on se moque de nous à cause de notre foi et de ce en quoi nous croyons. Et donc Pierre ne va pas juste évacuer ça du revers de la main, il va leur montrer pourquoi leur moquerie ne vaut rien. Et pourquoi ils n'ont pas à craindre cette moquerie-là. Il va donc leur montrer quelle est leur vision des choses. Et il va la comparer à la vision biblique des choses. Il dit, dans leur argumentation, voilà ce qu'ils disent, verset 4. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout demeure comme dans le commencement de la création. Ça, c'est leur argument principal. On appelle ça la permanence des choses depuis le commencement. Alors, les scientifiques appellent ça, j'ai trouvé le nom, ça s'appelle l'uniformitarisme. Qui a déjà entendu parler de l'uniformitarisme ici? Hein? Ed, n'est-ce pas? Voilà, et donc c'est quoi l'uniformitarisme? C'est une branche de la géologie qui dit ceci. Donc j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé cette définition, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Il dit l'uniformitarisme ou l'actualisme est un des principes de base de la géologie moderne. Il postule que les processus qui se sont exercés dans le passé lointain exercent encore aujourd'hui, de nos jours. Et donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est d'expliquer le passé par ce que l'on voit dans le présent. Et de dire que ce que l'on voit, c'est ce qui a toujours été. Et comme c'est ce qui a toujours été, c'est toujours ce qui sera. Et rien ne va changer. Et ils disent ici, c'est ce que disait c'est mon cœur, ils disent, depuis la création du monde, depuis que nos pères sont morts, rien n'a changé. Alors pourquoi voulez-vous que maintenant, quelque chose change? Et Pierre dit, c'est là leur argument. Mais parallèlement à l'uniformitarisme, il faut savoir que ça n'a pas toujours existé. Au tout début, les géologues étaient catastrophistes. C'est-à-dire qu'ils expliquaient l'existence de la croûte terrestre par des successions de catastrophes. Et en fait, un chrétien est catastrophiste. Et qu'est-ce qu'on appelle une catastrophe? C'est pas forcément, quand on dit, oh là, c'est catastrophique, ça veut dire que c'est un désastre mortel. Hein? La création est une, si on la regarde dans un certain sens, une catastrophe dans le sens où Dieu intervient dans le cours de l'histoire. Et puis ce qui n'est pas est, de manière quasi instantanée. Lorsqu'il y a un cataclysme qui arrive sur la planète, on dit qu'il y a une catastrophe. C'est quelque chose, un événement violent, soudain, qui se passe dans un temps très réduit. Et on appelle ça le catastrophisme. Alors il y a d'autres, bon, ce sont les deux pensées qui s'affrontent. Mais maintenant, de plus en plus, on éloigne un tout petit peu l'uniformitarisme sans trop le dire, mais il faut savoir que l'uniformitarisme, c'est ce qui a donné un peu naissance à l'évolution. Parce que dans le concept de l'uniformitarisme, il y a ici cette pensée que rien n'évolue. Et que si quelque chose évolue, il faut beaucoup de temps pour que ça puisse évoluer. Et ça évolue par petites variations infimes et extrêmement long dans le temps. Et ça a donné ce qu'on appelle ici l'évolution. Donc, vous voyez déjà apparaître ici avec ce que Pierre dit, la souche de ce qui est à donner un petit peu l'évolution. Il dit, c'est ça leur vision du monde. Ça, c'est la deuxième chose. Quatrièmement, il va donner leur motivation profonde à ces faux docteurs. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset, on revient en arrière, au verset 3. Sachez qu'avant tout, il y aura des moqueurs qui marchent selon leur propre convoitise. Et il montre ici que les moqueurs sont conduits par leur propre désir. Ce qui les conduit, ce n'est pas le souci de la vérité, mais c'est l'accomplissement de leur propre désir. Regardez au verset 4, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? La phrase commence comment? Ils veulent ignorer. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils ignorent volontairement. Et pourquoi ils ignorent volontairement? Parce qu'ils sont conduits et qu'ils veulent être conduits par leur propre convoitise. Et donc il dit que c'est ces gens qui viennent et puis qui vous proposent, voilà, le monde. C'est pas, ce ne sont pas des arguments scientifiques. Ils ne sont pas mus par la recherche de la vérité. Ils ne sont mus que par le désir, que par la convoitise qui agit dans leur propre cœur. Et c'est, je trouve cet argument très fortifiant pour nous. Je parlais avec une jeune de notre église mardi soir et elle me dit, ouais, en cours de philosophie, le prof, il dit, ben, il faut oublier Dieu, il faut oublier ces choses-là. Maintenant, on va réfléchir par nous-mêmes, avec notre propre pensée, etc. Et je lui dis, tiens, tu vois ce que Pierre dit? Pierre dit que les gens, ils ne veulent pas connaître ce qui est. Ils veulent ignorer. C'est une ignorance volontaire. Ils ont choisi d'ignorer de manière à pouvoir vivre selon les propres convoitises de leur cœur. Donc, que ce soit un grand professeur d'université, un grand avocat, ce que vous voulez, il dit que la pensée qui domine derrière, c'est vraiment la convoitise. Et on avait vu hier soir, la corruption qui est dans le monde existe à cause de la convoitise, avait dit Pierre. Et ici, il dit qu'ils sont conduits par leur propre convoitise. Donc, ils veulent ignorer. Ce n'est pas un argument historique ou quelque chose comme ça qui veut l'opposer. Ils sont mus par le désir vraiment de vivre leur vie corrompue. Et pourquoi? Quel rapport ça a avec le retour du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si on dit que Christ va revenir, on dit qu'il y aura un jugement final. Et si on dit qu'il y a un jugement final, on dit qu'il y aura à rendre compte. Et s'il faut rendre compte, il faut rendre compte de ce que l'on a, de notre propre vie. Et les gens veulent vivre selon leur propre nature, selon ce qui les passionne, selon leur propre convoitise. Et donc, ils disent simplement, il n'y aura pas de jugement final. Pourquoi il n'y aura pas de jugement final? Parce qu'il n'y aura pas d'intervention de Dieu dans le cours de l'histoire. Et pourquoi il n'y aura pas d'intervention de Dieu dans le cours de l'histoire? Parce qu'il n'y en a jamais eu. Parce que de toute façon, les choses existent comme cela depuis le départ. Mais Pierre dit ici, ils veulent ignorer que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu et qu'une terre tirée de l'eau est formée par le moyen de l'eau et que par ces choses, le monde alors périt. Il dit que Dieu est déjà intervenu une fois de manière cataclysmique dans l'histoire de la planète. Ça s'est fait. Il y a des preuves. Une preuve, c'est que toutes les civilisations, un petit peu, hein, toutes les civilisations ont une histoire du déluge dans leur mémoire. J'ai lu qu'il y a un scientifique qui se questionnait, il se dit, mais comment? Il dit, d'accord, on suppose qu'il n'y a pas de déluge, qu'il n'y a jamais eu de déluge. Mais comment est-ce que des peuples situés à des lieux différents de la planète aient dans leur mémoire historique le même mythe du déluge? Ils appellent ça le mythe du déluge. Comment est-ce que c'est possible? Il y a plein de choses comme cela qu'ils n'expliquent pas. J'ai lu dernièrement un scientifique, comment s'appelle les gens qui étudient les sédiments, là, français, qui disait que, eh bien, en mer Noire, ils ont trouvé en forant des indices, et même c'est paru dans le journal Libération, je crois, ou l'Express en France, hein, des sédiments qui montrent qu'il y a eu un événement cataclysmique. Ils ont dit même que ce pourrait bien être le déluge. Et quand les hommes veulent ne pas se mettre les mains devant les yeux, ils arrivent à connaître ces arguments qui sont dans la nature même. Et c'est pour ça que Pierre dit, ils veulent ignorer. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de preuves. Ils voudraient bien croire, mais il n'y a pas de preuves. Non, il y a des preuves. Mais ils veulent ignorer que Dieu a créé les choses pour pouvoir ignorer. Ils veulent ignorer aussi qu'il y a un déluge, donc qu'il n'y a jamais eu, qu'il y a une fois une catastrophe, pour ignorer que dans le futur, il puisse avoir une catastrophe. Parce que l'idée, c'est que si Dieu a pu intervenir par sa parole une fois, pour anéantir le monde, il peut le faire aussi une seconde fois par sa parole. Et ça, les moqueurs ne veulent pas en entendre parler. Voilà donc un petit peu pourquoi, je pense en tout cas, Pierre n'évacue pas la question du revers de la main, mais il nous donne des arguments pour pouvoir répondre à ceux qui pourraient nous qualifier d'illuminés un petit peu. Eh bien, il dit, leurs arguments ne sont pas des arguments scientifiques. C'est un argument d'ignorance volontaire et de désir charnel. C'est pas le désir de la vérité, c'est le désir de vivre de manière charnelle qui les attise. Et puis, donc, je n'aurai pas le temps de développer tout cela, mais Pierre développe un petit peu cette idée en montrant que, je l'ai dit, que Dieu a créé le monde, que Dieu a amené une première destruction et que Dieu emmènera une deuxième destruction cette fois par le feu. Parce qu'il dit que le monde est réservé pour le feu. Je voulais juste terminer avec ce qu'il développe à la suite. Il dit, verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. » Donc, il parle des moqueurs, et puis maintenant, il parle aux chrétiens. Il dit, « Mais vous, si eux, ils veulent ignorer, vous ne devez pas ignorer. » Et vous ne devez pas ignorer quoi ? Et vous ne devez pas ignorer, j'ai englobé ça dans un seul titre, les réalités concernant Dieu. Vous ne devez pas ignorer les réalités concernant Dieu. Quelles sont ces réalités ? Premièrement, il dit, vous ne devez pas ignorer le temps du Seigneur. Devant Dieu, dit-il, il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Les gens qui arrivent avec l'argumentation que Dieu tarde, parce que parfois les moqueurs disent que Dieu ne viendra pas, mais les chrétiens pensent que Dieu tarde, ils peuvent penser que Dieu tarde, et pourquoi il tarde? Et ils sont un petit peu peut-être ébranlés par cela. L'apôtre Pierre dit, sachez que Dieu ne tarde pas, parce que devant le Seigneur, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Ce qu'il veut dire, c'est que quand je veux mesurer le temps, il me faut le mesurer devant le Seigneur, et pas avec mon propre chronomètre à moi. Mon chronomètre n'est pas capable de mesurer le temps de Dieu. Et donc, il dit que Dieu, c'est lui qui est la mesure de toute chose. Et c'est, si je veux comprendre une chose à propos du temps, il faut se mettre à l'échelle de Dieu. Ça, c'est difficile. Dieu vit dans un éternel présent. Dieu n'a pas de passé, de futur, d'avenir. Il vit éternellement dans le présent. Tout à l'heure, on parlait avec Robert et on parlait de la bonté et du mal et du bon. Et il me faisait remarquer que le bon existe avec Dieu éternellement. Et le mal est apparu par déviance du bon. Et un jour, le mal disparaîtra. C'est exactement la même chose, hein, ici. Le temps pour Dieu, ça, c'est... Dieu est dans un éternel présent. Aujourd'hui, hier et demain, il est le même. Il est celui qui ne change pas. Le chrétien doit donc intégrer ça. Deuxième chose, il dit que il nous parle de la patience du Seigneur. Le chrétien ne doit pas oublier que Dieu est un Dieu patient. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience. Dieu n'est pas lent. Quand ils disent que Dieu tarde, ça veut dire qu'il est lent, il traîne la patte un peu, il ne sait pas. Non, pas du tout. Dieu, il n'est pas lent, il a un temps précis pour chaque chose. Dieu n'a jamais été en retard, il ne sera jamais en retard. Dans Galates 4, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi. Exactement au temps qu'il avait prévu. Et donc, la raison de son délai, ça n'est pas un retard, ça n'est pas qu'il est pris de court, mais il dit qu'il use de patience envers le pécheur, parce que la volonté de Dieu, ça c'est la troisième chose, c'est que le pécheur se repente. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce délai entre le moment où le Seigneur nous a annoncé qu'il reviendra et puis maintenant, c'est que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Et l'Ancien Testament, déjà, disait cela. C'est pour ça que Pierre dit, ce sont des choses annoncées d'avance. Dans Ézéchiel, il est dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et donc, on comprend bien que la volonté du Seigneur et que l'homme se repente et qu'il use, que Dieu use de patience pour lui donner cette occasion. Alors peut-être qu'aujourd'hui même, dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas encore saisi cette occasion de rencontrer le Seigneur. Eh bien, il tarde, c'est pour vous donner ce temps-là, c'est pour vous donner le temps de vous repentir, de vous tourner vers lui aujourd'hui même, ce soir même, si vous entendez sa voix. L'apôtre Paul disait, « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et donc, nous, en tant que chrétiens, ne devons pas interpréter ce qu'on pourrait appeler le retard apparent de Dieu comme un retard, ou comme le fait que, bon, peut-être que nous nous sommes trompés, mais par le fait que, devant Dieu, un jour sont comme mille ans, mille ans comme un jour, que Dieu a une volonté de sauver les gens, il a une volonté qu'ils arrivent à la repentance, et donc nous devons œuvrer aussi dans le même temps à cela. La Bible dit que l'homme, parce qu'il a un délai, il l'utilise pour faire des bêtises. Hein. Comme par exemple quelqu'un à qui la banque, pensez à quelqu'un qui a un crédit à la banque ou qui est, je sais pas moi, qui est en difficulté, et la banque lui donne un délai pour rembourser sa dette. Mais au lieu de la rembourser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contracter encore d'autres dettes. C'est vraiment négliger ce temps qui lui a été accordé. Et Ecclésiaste dit cela, hein. Ecclésiaste 8 dit, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Et c'est exactement ce que font ces faux docteurs. Et peut-être parfois, nous-mêmes, hein, ça peut nous arriver, parce que Dieu semble si loin à revenir, eh bien, on prend la liberté de vivre notre vie comme on a envie de la vivre. Je parlais avec un frère, et il y a quelques, peut-être l'année dernière, il me dit, c'est vrai que je ne pense pas que le Seigneur pourrait revenir demain, ou après-demain, ou le mois prochain. J'avoue que j'ai du mal à croire cela. Et l'apôtre nous montre qu'il faut rester constamment dans cette attente. Parce que pourquoi? Quand on n'attend pas de cette manière, eh bien, le cœur peut être se remplir de désir pour faire ce qui est mal. Et puis, quatrième chose plutôt sur la réalité de Dieu, du Seigneur, que Pierre enseigne ici. Il dit, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra. » Ça, c'est la réalité. J'avais un peu envie de dire, mais le jour du Seigneur viendra. Il y a de ceux qui disent qu'il ne viendra pas, parce que les choses n'ont pas changé depuis le début de la création. Il dit, mais le jour du Seigneur viendra. Un peu comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens quand il parlait de la résurrection. Il disait, si on dit que Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité. Je crois qu'il le dit au moins 3 ou 4 fois. Et puis après il dit, mais Christ est ressuscité. Et ça, c'est la réalité. Et on pourrait dire ici la même chose, l'apôtre Pierre imprime dans l'esprit du croyant ici, mais le jour du Seigneur viendra, j'ajoute, certainement. Et on doit être convaincu de cela. Cela doit avoir, on va le voir demain, un impact dans notre vie. Pierre l'affirme, c'est une vérité, c'est une certitude. Ce qui arriva du temps de Noé, vous vous rappelez, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est Jésus qui l'a dit. Et qu'est-ce qui arrivait du temps de Noé? Eh bien, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pendant tout ce temps, Noé, la Bible dit que c'était le prédicateur, il les a prêché la parole pour qu'ils rentrent dans l'arche. Ils ont complètement ignoré Noé. Ils se sont même peut-être moqués comme ces moqueurs. Ils ont dit, le déluge, mais c'est quoi? On n'a jamais vu de pluie dans ce pays. On ne sait même pas ce que c'est. Tu nous parles de trompe d'eau, etc. Et ils se sont moqués pendant 120 ans. C'est pas un jour. C'est pas deux jours. Imaginez 120 ans. Qui a d'autre nom déjà vécu 120 ans? Personne. Ici, en tout cas, dans cette salle. Hein. Eh bien, pendant plus de temps qu'on a déjà vécu, Noé a prêché le message. Et les gens se sont moqués. Mais la Bible dit ceci, ils croyaient que le déluge n'allait pas venir. Hein.
Et puis il ajoute, le déluge va. Et c'est la même phrase ici. Le jour du Seigneur viendra. Et nos chrétiens doivent être convaincus de cela. Parce que quand il viendra, eh bien, si on n'a pas mis notre confiance en lui, ça sera trop tard. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle de savoir que le jour du Seigneur viendra, mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça que les moqueurs s'amorcent, qu'ils veulent détourner les chrétiens, qu'ils veulent se voiler la face, qu'ils veulent ignorer les choses, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du jugement pour pouvoir vivre tranquillement dans leur conscience, poussée et mue par leur convoitise. De même que le jour du Seigneur viendra certainement, il dit qu'il viendra comme un voleur. Et un voleur, il ne prévient pas, n'est-ce pas, quand il vient. Je n'ai pas le temps ce soir, parce que je sais que vous êtes fatigué de lire tous ces versets, mais Ésaïe 66, verset 15, Malachie chapitre 4, verset 1 à 4, et c'est des passages intéressants à lire, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5 à 10, qui montrent que ce jour du Seigneur viendra. Et cette espérance doit nous maintenir, doit nous pousser à bien interpréter à certaines choses concernant la volonté de Dieu et à repousser loin ces pseudo-arguments scientifiques qu'on pourrait nous apporter parce qu'ils ne sont que le résultat de l'ignorance volontaire de ce qu'il est présent, ce que la Bible, que la parole de Dieu nous dit ici. Alors que le Seigneur nous aide. Quelques versets quand même. Habacuc dit ceci, car là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira deux fois, dit-il, certainement. Et c'est comme ça que l'on doit attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux disait ceci, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, parce que Dieu ne tarde pas, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et même, la parole de Dieu dit dans Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir, et d'autres textes disent pour l'exécuter. Donc, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ça n'est pas un problème. Une fois, j'ai un collègue, on parlait, et puis il me dit, bon, ben, quand on est mort, après on descend. J'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu vas comparaître devant Dieu pour être jugé. Il me dit, mais ça, je ne crois pas. Je dis, mais c'est pas parce que tu n'y crois pas que ce n'est pas vrai. Hein? Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ça ne change rien à la réalité. Hein? Quelque chose ne devient pas vrai parce qu'on le croit. Alors, on dit, les chrétiens, vous, c'est vrai pour vous parce que vous y croyez. Mais moi, je n'y crois pas, ce n'est pas vrai pour moi. C'est faux. C'est vrai, point final. Que je le crois ou que je ne le crois pas. Et la parole de Dieu dit, Dieu veille sur sa parole. Et sa parole, c'est qu'un jour, il va revenir pour prendre avec lui ses enfants, mais aussi pour juger les impies. Et ce jour-là vient, dit-il. Et ça doit même être un jour après lequel les chrétiens aspirent que leur Seigneur revienne, tout en pensant que c'est un jour en même temps terrible. Dernier verset que je vous lis et je vous quitte avec ça, un verset que vous devez connaître très certainement, Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17 et au verset 30 et 31. C'est lorsque Paul se trouve à Athènes. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a prévu un jour où il va juger le monde. Et il a déjà prévu qui va le faire. La Bible nous dit même qu'il a fixé un jour. Et donc ce jour existe. On ne sait pas quel jour c'est. Mais il existe, il a fixé ce jour. Et sa parole nous le dit. Et un jour, par Jésus-Christ, parce que c'est celui qui l'a ressuscité des morts, ce monde sera jugé. L'apôtre Pierre nous dit que ce jugement, ce sera par le feu. Il dit même que les éléments embrasés se dissoudront. Il y a des textes qui disent qu'ils vont exploser dans un bruit sourd. Et il va juger le monde par ce monde-là, par ce moyen-là. Je voudrais dire ceci, le monde et l'histoire de notre monde est intimement lié à la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu, le monde subsiste par la parole de Dieu, et le monde disparaîtra par la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit, et nous devons le croire. Il y a eu une catastrophe avec le déluge, il y en aura par la parole de Dieu, il y en aura une autre par le feu, par la parole de Dieu. Nous pouvons la prendre ou nous pouvons la laisser, mais c'est la parole de Dieu et il veillera à ce qu'elle soit accomplie exactement au jour où il l'a fixée. Et Pierre dit, chers chrétiens, je veux que ça reste dans votre esprit, dans votre mémoire, même lorsque je ne serai plus du tout présent sur cette terre. Et que ce soit aussi la même chose pour nous. Prions.